Le Fonds mondial pour la nature, dans son projet Eco Makala, a lancé depuis plusieurs mois un programme de foresterie communautaire dans la partie est et nord-est du territoire de Masisi. Plus de 100 paysans de ce secteur bénéficient de ce projet, encadré par une association locale, Action communautaire pour le développement rural intégré à Caudry en sigle. Ces paysans reçoivent de quelques fonds, donc de ce projet, quelques fonds, la semence et la formation. Ils établissent par après des reboisements dans leur propre concession avec la garantie de bénéficier eux-mêmes de 80% de récolte dans les 5 ans à venir. Nous en parlons avec Bernadette Nyangui et nous aurons comme invité Bruno Hugel, chef de projet Eco Makala. Bernadette, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Alors, une centaine de paysans de Masisi vient de bénéficier du projet de la foresterie communautaire financé par WWF. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ce qui est fait concrètement?
Disons d'abord, il faut d'abord préciser qu'il y a une mission d'évaluation de ce projet qui a été conduite en fin de la semaine passée à Kichanga par le chef de projet Eco Makala, donc Monsieur Bruno Hugel. Et c'est en fait depuis le mois de mai 2016 que ce projet a commencé dans ce secteur de territoire de Masisi. Et pour le coordinateur de l'ONG à Caudry, plus de 2000 hectares devraient être reboisés dans cette partie. Mais déjà, il s'est fait que ce projet connaît quelques difficultés de l'insécurité du fait et qui fait même ralentir de travaux. Je peux d'ailleurs vous proposer de suivre à ce sujet Forongo Piritani, il est coordinateur de Caudry.
Depuis le mois de mai 2017, nous avons signé un contrat pour planter 2200 hectares jusqu'à décembre 2017. Jusque-là, nous avons déjà, sur ce contrat, 203 hectares. Pour le moment, nous avons signé un deuxième contrat pour encore avoir 200 hectares. Mais avec la guerre, nous avons atteint, dans l'ensemble de 2017 aujourd'hui, nous avons 350 hectares. Mais nous avons des plantes dans les pépinières et nous espérons que fin de ce mois de décembre, nous aurons atteint les 400 hectares.
Alors, dans ce secteur de Kichanga, Bernadette, la pression humaine sur les ressources forestières du parc est-elle vraiment visible pour justifier un tel projet?
Avec l'arrivée massive des réfugiés rwandais au Nord Kivu en 1994, il y a eu une grande partie de forêt du parc national de Virunga qui avait été dévastée et cette situation s'est encore empirée après l'éruption volcanique de 2002 qui a englouti une bonne partie des maisons à Goma. Et ces deux facteurs, ajoutés à la croissance démographique toujours galopante, font qu'il y ait un besoin accru des matériaux de construction d'abord, mais aussi des structures rurales, tout comme ici en milieu urbain à Goma. Pour WWF, augmente la pression des populations de ces fruits de Baoundé et Bachali sur les ressources du secteur sud du parc national de Virunga. Et présentement, les habitants de ces deux chefferies riverains de parc ont établi deux grands marchés de charbon de bois lin à Kingi, à 40 km de Goma, toujours en Masisi, et l'autre à Burungu, environ 70 km au nord-ouest de Goma, sur l'axe Sake-Kichanga, et où environ, nous avons pu constater que 4000 sacs de charbon de bois venus du parc sont payés chaque jour pour être revendus à Goma, et sans parler des nombres de camions de planches qui proviennent chaque jour de ce secteur en direction de Goma. Alors, sensibilisés sur la question, environ 120 paysans de ces deux chefferies qu'on a cités ont déjà adhéré à ce projet Eco Makala de WWF pour prévenir d'une part la disparition des restes des forêts du parc, mais aussi de l'autre part répondre à leurs besoins financiers. Nous pouvons d'ailleurs écouter les témoignages de quelques-uns.
Hapa tuko na hektari tano na nusu hii tulishapanda. Wanatusaidia na sina dolari kwa hektari.
Bo, ile hizi hektari zote ziko niza mbalia na zinafunikwa na miti. kitu kimenisukuma kupanda miti, sirtu akodri ilitufundisha na kutuhimiza mafaa ya muti, na ikatuonyesha kwamba tunapokosa miti mazingira itaharibika, na kweli tumeona kwamba ni jambo la maana.
Na hii kazi yetu ya poste ndani, hii miti ni ya kwetu, itatuletea hewa mzuri, tutakata kwa makala na tutapasula mbao. Kama inakosa makuta ya kulipa kwa masomo, na uzisha mtu moya $15 inalipa kwa masomo. Hapa tuko karibu ya parki kupetete 1 kilometri.
Sasa batu wanaingia mpaka kwenda tafuta kuni.
Aki, sasa zamani, waisha maliza.
Alors, Bernardin, comment se fera le partage des productions, des reboisements communautaires à la récolte pour que réellement la population en profite?
Oui, comme disait d'ailleurs ce planteur que nous venons d'écouter en Swahili, qu'on a rencontré à Kichanga et Kirolire, au terme des contrats entre le Fonds mondial pour la nature et les paysans planteurs des arbres, il est prévu qu'à la récolte dans les 5 ans à venir, une partie de bois revienne encore aux planteurs et environ 20% seront prélevés dans chacun de reboisement pour la pérennité des projets. Suivant d'ailleurs à ce sujet, une fois de plus, le coordinateur de Agrodri.
Le bénéfice va au niveau des populations, parce que WWF a conduit, c'est l'appui technique, producteur, mais pour la continuité du programme. À la fin, comme nous donnons des appuis techniques, les semences, le plantier, le suivi agronomique, nous signons un contrat avec chaque planteur, qui à la première récolte, il va céder 20% à la conduite, pour qu'après le projet, ces 20% puissent aider encore d'autres planteurs pour continuer le projet.
Alors Bernadette, avez-vous quelque chose à ajouter avant qu'on se sépare?
Oui, on peut juste ajouter que le Fonds mondial pour la nature vise aussi à travers ce projet accomplir ses accords de partenariat avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, celui de protéger les forêts du parc par la fourniture à la population riveraine de l'énergie alternative aux forêts du parc. Et signalons pour terminer que ce projet de foresterie communautaire est entrepris par le WWF dans le territoire de Masisi, le territoire de Rutshuru, et même au sud du territoire de Lubero.
Voilà, Bernardin, merci et à très bientôt.
Ok, merci à vous.
Naïf Issa Jean-Claude, n'a pas dit juste n'a pris Kela numéro 17, n'a commis ni à Barumbu. Alors, n'a pas souhaité ma mère, je n'en ai pas. Tout d'abord, n'a maman pas n'en ai à Dolokeni, et puis n'a pas n'en ai Yannick Lubendoka, n'a maman Brigitte, n'a maman Miezi Anne n'a Kela. Na Barumbu, et puis na maman Sansi Mukwele. Yango wana bati noso mbule kwa 2009 bazala en très bonne santé.
Écoutez-vous tous les jours sur Radio Okapi.
Voilà, nous avons en ligne notre invité Bruno Ugel, chef de projet Eco Makala. Monsieur Bruno, bonjour.
Bonjour.
Alors, quelles sont les motivations à la base de ce projet que vous venez de réaliser au bénéfice des paysans à Goma?
Alors, ils sont nombreux, en fait. On a parlé effectivement de la protection des forêts du parc, et c'est vraiment un objectif important, effectivement, dans le sens où quasiment toute la population de Goma, c'est plus d'un million d'habitants, dépend entièrement des forêts du parc maintenant pour les besoins en bois énergie. Ce qui pose des gros problèmes au niveau conservation, ça c'est une chose, mais ça pose aussi énormément de problèmes dans le sens où, à la vitesse où les ressources sont en train de disparaître, on repousse le problème et ben, on va avoir vraiment une crise majeure dans les années à venir, puisque même les forêts du parc, à partir du moment où on va replanter, on ne laisse pas de la possibilité de repousser, vont disparaître à leur tour, ce qui va poser énormément de problèmes. Ne serait-ce aussi en termes de régulation du climat pour les agriculteurs autour du parc. Donc la protection des forêts du parc, c'est une chose. La deuxième chose aussi, c'est vraiment un objectif important de lutte contre la pauvreté et le développement local. Donc le Konakala, c'est pas juste la protection du parc, c'est d'abord avant tout le renforcement économique des populations, notamment des planteurs.
Voilà, donc résumé, en quoi se résument les attentes de ce projet?
Donc l'objectif principal, c'est l'approvisionnement en bois énergie de la ville de Goma, en donnant une alternative aux forêts du parc et en pouvant effectivement assurer un apport économique en termes de lutte contre la pauvreté pour la population locale. Donc on travaille au travers d'associations locales, comme à Caudry, mais on travaille actuellement avec 13 associations différentes qui font le lien entre nous qui assurons un appui technique et financier et les planteurs qui font plusieurs centaines.
Est-ce qu'on peut avoir une idée sur l'échéance de ce projet ?
Donc, c'est un projet de 5 ans, donc financé par l'Union européenne, la Commission européenne, au travers de WWF Belgique. Donc, c'est un projet de 5 ans. Sachant que c'est vraiment en même temps le développement d'un nouveau modèle de reboisement communautaire, avec un objectif d'environ 4000 hectares de plantation, en priorité avec les petits paysans, les petits propriétaires terriens, sur 5 ans. Donc, c'est un objectif vraiment ambitieux. Sachant qu'à partir du moment où on est en train de mettre en place ce nouveau modèle, de le peaufiner, de l'améliorer, de faire coller le mieux possible à la réalité et aux besoins sur le terrain, on est sûr que de toute façon, c'est pas dans 5 ans, ça va se terminer brutalement directement. Il y a toujours possibilité, à partir du moment où on a un bon modèle, de trouver d'autres financements pour pouvoir continuer le développement des déboisements communautaires.
Et pour certains observateurs, c'est quand même un projet ambitieux et un projet intéressant. D'aucuns déjà pensent à sa pérennisation. Est-ce que, à votre niveau, au niveau du projet, vous pensez aussi à ça et quels sont les mécanismes déjà mis en place, concoctés pour effectivement que ce projet puisse être pérennisé?
Alors, il y a plusieurs choses, effectivement. C'est que le WWF dans les Virunga, le WWF-TV, ce programme-là, ça fait 20 ans, en fait, les 21 ans du programme autour des Virunga. C'est le plus vieux projet VVF au monde, et ça fait 21 ans, donc on fait de la foresterie, notamment avec le projet 4 pieds sous pandémie, qui se concentrait beaucoup sur la sensibilisation à l'environnement, et notamment l'importance de l'arbre, de planter des arbres. Et puis de commencer à diffuser un petit peu les techniques de pépinière et de plantation. Suite à ces 20 ans, on a fêté les 10 millions d'arbres plantés par le projet, on les a fêtés l'année dernière, ce qui est une réalisation assez considérable. Et on s'était dit, par rapport aux besoins, à la quantité de besoins pour les gens de Goma, c'est bien, mais c'est loin d'être assez. D'où le projet Comacala pour vraiment arriver à augmenter l'échelle de façon importante. Ce qui est important toujours, c'est de pouvoir voir la durabilité du projet. Et effectivement, c'est bien de pouvoir identifier d'autres fonds, d'autres financements de développement pour pouvoir continuer le projet. Mais le plus important, c'est d'essayer de que les choses puissent se passer sans l'aide internationale, sans l'aide de développement, en fait. Donc, comme ça a été dit plus tôt, chaque planteur qui est assisté dans le cadre du projet comme à Canax, il est assisté financièrement et techniquement, surtout. L'objectif, c'est que sur la première récolte, il puisse fournir à l'association qui l'a encadré 20% de cette première récolte, qui doit aller, effectivement, et on est là pour vérifier ça. Cet argent doit être réinvesti dans d'autres surfaces plantées pour pouvoir donner la même opportunité à d'autres personnes, indépendamment du financement du projet.
Ben alors, 100 paysans de ce secteur bénéficient de ce projet. Quels ont été les critères d'éligibilité?
Alors, nous sélectionnons d'abord et avant tout les associations qui doivent déjà avoir effectivement une certaine expérience en reboisement. L'objectif des Comacala aussi, c'est de diffuser au maximum les techniques de foresterie, puisque quand on visite les boisements, les pépinières, etc., on voit toujours les mêmes petites erreurs, qui sont pas des erreurs catastrophiques, mais qui nuisent à la productivité. Et c'est-à-dire moins de productivité, ça veut dire moins d'argent pour le paysan au bout du compte. Donc on est là vraiment pour encadrer techniquement ces associations, pour les améliorer vraiment, et qu'elles puissent elles-mêmes diffuser le message et les connaissances des techniques de foresterie aux paysans. Donc là, la sélection des associations se fait avec l'expérience, au moins un peu d'expérience en foresterie, et puis une capacité quand même de suivre un projet, une crédibilité sur le terrain. Évidemment, une association qui vient de se créer il y a un mois et qui ne connaît personne sur le terrain, on peut hésiter. Après, pour la sélection des paysans, on doit répartir les surfaces à reboiser vers vraiment beaucoup de personnes, puisque l'objectif c'est pas de travailler avec une dizaine ou une centaine de gros propriétaires terriens. L'objectif c'est de travailler à l'issue du projet avec des milliers de petits planteurs. Donc on parlait d'une bonne centaine, on doit être au-dessus de ça quand même, dans le territoire de Massissil. On était allé effectivement faire le suivi des plantations il y a la semaine dernière. Mais on travaille aussi dans tout le territoire de Rutshuru, le sud du territoire de Loubero, et on est en train de lancer pour la prochaine saison de plantation les activités dans le Grand Nord, c'est-à-dire autour de Beni, Boutembo, Moutouanga et Kassindi. Donc là, on parle de bien, bien plus que 100 paysans. On parle d'au moins 300 paysans. Et c'est un début.
Oui, Monsieur Bruno Hugel, une curiosité, un nouveau modèle de reboisement, de quoi s'agit-il exactement?
Alors justement, c'est ce que j'évoquais, c'est qu'effectivement, on pourrait, nous, en tant que WWF, effectivement, embaucher directement des pépiniéristes, directement des gens, et aller planter, effectivement, mais c'est pas quelque chose de vraiment durable. On pourrait continuer, comme on l'a fait avant, avec ce programme de sensibilisation, et aussi on soutenait justement les pépinières communautaires pour pouvoir faire la production de plantules qui étaient distribuées aux paysans. C'est bien aussi, mais l'objectif c'est de vraiment s'assurer qu'il y a une grande quantité d'hectares plantés, reboisés pour pouvoir assurer les besoins énergétiques de la population. Donc ce nouveau modèle, c'est vraiment de travailler au travers des associations comme on le faisait avant, mais avec des contrats avec les associations. Donc on soutient financièrement les paysans à hauteur de $50 par hectare, plus les plantules sont données, produites par l'association. Et l'association reçoit $150 par hectare planté pour la production des plantules, pour s'assurer effectivement du suivi de l'encadrement technique des paysans, de trouver des terrains reboisés, s'assurer qu'il y a une répartition équitable entre toutes les personnes, en visant encore une fois au maximum les petits propriétaires terriens, donc des personnes qui peuvent faire peut-être seulement 1 hectare ou 2 hectares de plantation. Et c'est déjà ça.
Alors, une autre curiosité, WWF Belgique travaille dans ce projet avec, j'imagine, certains partenaires internationaux et aussi des partenaires nationaux. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ces partenaires?
Alors, WWF Belgique, c'est WWF Belgique qui a fait la demande de financement auprès de la Commission européenne. Et c'est WWF Belgique qui a un contrat donc avec WWF Afrique de l'Est, dont nous dépendons ici, pour la réalisation des activités. Donc on travaille effectivement en collaboration avec la Commission européenne et en collaboration notamment pour les aspects renforcement technique avec WWF Belgique. Sachant que, indépendamment de toutes les associations locales, et évidemment du ministère provincial de l'Environnement et de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, qui sont vraiment des partenaires très forts et très très importants pour nous, qui contribuent complètement dans ce projet, on est sûr de pouvoir aussi trouver d'autres bailleurs, d'autres organismes intéressés pour les aider techniquement dans ce domaine.
Et sur le plan local, vous travaillez avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature?
Bien sûr, nous sommes un partenaire de l'IGCN depuis encore une fois 21 ans. C'est quelque chose d'important, on a quand même des relations très importantes. Et on travaille directement avec eux dans tout ce qui est conservation communautaire, justement. Donc on peut bénéficier la population de la conservation du parc, de la gestion durable des ressources naturelles, et notamment si la Commission européenne a pu fournir ce genre de budget pour pouvoir lancer le projet Comacala, c'est grâce au parc et c'est grâce à la présence de l'IGCN, dont nous sommes partenaires. On travaille étroitement aussi en relation avec la ministre provinciale de l'Environnement, puisque il est dans une attribution avec le gouvernorat d'assurer le reboisement de la province. Donc on s'assure de travailler en synergie pour être sûr qu'on se consolide les uns les autres et qu'on travaille ensemble.
Un projet très ambitieux, un projet de 5 ans, si ce n'est pas indiscret, quel est son financement?
Son financement est de 2,5 millions d'euros pour 5 ans. Sachant qu'on veut développer, en plus de ces 4000 hectares de surface reboisée, qui est un objectif très très ambitieux, je suis sûr qu'on va tenir. On veut développer aussi tout ce qui est projet pilote, déforestation évitée et tout ce qui est séquestration de carbone. Donc les mécanismes qui ont été mis en place ou qui sont en train de se mettre en place au niveau international pour la lutte contre le changement climatique. L'objectif, c'est encore une fois de pouvoir attirer dans la zone un certain nombre de financements internationaux dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, pour pouvoir venir renforcer encore une fois l'apport extérieur indépendant du projet, d'abord au niveau financier, pour pouvoir encore une fois durabiliser, viabiliser ce système de plantation sur de nombreuses années. Ça, c'est un objectif important pour nous aussi.
Oui, alors le docteur aimerait également savoir si ce projet Eco Makala ne concerne que la partie est du pays.
Alors pour l'instant, effectivement, oui, c'est un, encore une fois, on est en train de mettre en place un système, un modèle. Donc effectivement, là, au fur et à mesure de notre expérience sur le terrain, on essaie d'adapter pour dire, voilà, il y a besoin de plus d'aide à ce moment-là au niveau sensibilisation, plus d'aide technique à cet endroit-là, à ce moment-là du projet aussi, etc., etc. Donc c'est un modèle qu'on est en train de mettre en place, de peaufiner, d'améliorer. L'objectif, effectivement, c'est d'avoir un modèle qui permet... avec un financement donné, de pouvoir faire le maximum de surface reboisée, ce qui permet d'assurer la viabilité du modèle. Et là, j'espère bien qu'effectivement, à partir du moment où on a un modèle intéressant qui fonctionne bien, de pouvoir le disperser dans d'autres zones du Congo. Alors, une chose aussi importante, c'est que Eco Makala ne vient pas tout seul. Il y a effectivement un problème énergétique dans la zone, puisque dans le Nord Kivu, là, autour du parc national du Virunga, c'est la zone la plus densément peuplée au Congo, ce qui a résulté dans une déforestation en dehors du parc très importante, et de plus en plus à l'intérieur du parc, et donc il y a une crise énergétique importante. Donc l'objectif, c'est effectivement de lancer Eco Makala pour fournir des alternatives aux forêts du parc, mais également couplé à un projet ambitieux, toujours par WWF et l'ICCN, et le ministère provincial de l'Environnement, un projet de diffusion, de vulgarisation des foyers améliorés à Goma. Donc on travaille déjà là avec le développement de tout ce qui est capacité de production avec des artisans locaux, pour pouvoir à Goma produire de très larges quantités de foyers améliorés, pour que chaque foyer de Goma puisse obtenir un foyer amélioré, sachant qu'un foyer qu'on va acheter entre 5 et 7 dollars permet en un seul mois d'économiser tellement de makala, au moins un tiers de la consommation de makala, voire la moitié, au moins. Ça permet de rentabiliser pour un foyer la vente du foyer en ne serait-ce qu'un seul mois, de faire des économies financières importantes sur l'achat du makala. Donc ça, c'est vraiment un projet complémentaire à Eco Makala pour justement diminuer la pression sur la ressource ligneuse, donc la ressource forestière, pour alimenter Goma en bois énergie.
Mais oui, mais Bruno Higel, Monsieur Bruno Higel, restez en ligne, juste une dernière question, bien. Après les flashs, et puis nous allons nous séparer.
Pas de problème, merci.
Très bien. Est-ce que vous pouvez également nous faire une idée sur la phase dans laquelle se trouve aujourd'hui le projet?
Alors là, le projet évolue bien. Effectivement, on a fêté les un an du projet là, donc on a encore, on a déjà bien construit le projet là, même s'il est encore en développement, puisque ça veut dire effectivement repenser tout le suivi du projet, puisque ça va représenter des milliers de petites plantations dispersées un petit peu partout. Donc ça, on a besoin de mettre en place un système de suivi bien particulier et très important, notamment avec l'aide des GPS, de la cartographie et des suivis par images satellites. Ça veut dire aussi construire une équipe, ça veut dire aussi construire des capacités. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de se mettre bien en place. Sachant que depuis le début du projet, on a mis en place un peu plus de 700 hectares de plantations déjà. Donc on est pour un an de projet, on est vraiment sur une bonne vague, sachant que l'objectif, c'est à chaque saison de plantation, et donc comme tout le monde sait, il y en a deux par an, chaque saison de plantation, l'objectif, c'est de pouvoir ajouter 1, 2, 3, 4 nouvelles associations pour pouvoir développer encore augmenter encore la quantité de tarte plantée à chaque saison. Donc ça se développe vraiment très bien.
Bruno Higel, chef de projet Eco Makala en WWF, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.
Merci beaucoup, à bientôt.
Munina, vous pouvez venir.